Avec Christian Page. Christian, Doris Byter va attendre parce qu'il faut qu'on parle d'Elvis.
Ah, ça me fait plaisir. Okay.
Caroline Legault, lors de sa chronique culturelle, tantôt nous parlait de ce film sur Elvis qui va prendre l'affiche dans plus de 2 ans.
Oui.
Et toi, t'es un fan d'Elvis, tu connais pas mal toute sa vie. Puis je voulais revenir là-dessus parce qu'on a reçu un message texte parce que on disait tantôt que tout a été fait sur Elvis. Puis je citais quelqu'un qui nous a écrit, à part un film porno, tout a été dit et fait sur Elvis. Et là, quelqu'un m'a écrit parce que moi, j'ai dit...
Il y a un film porno qui existe.
Ben oui, il y a un film porno, apparemment. Il y a un film 3X qui a été tourné à propos d'Elvis, qui a déjà été présenté il y a quelques années à Super Écran. T'as pas vu ça, toi, Christian?
Non, non, mais non. Je savais cette...
C'est épouvantable. C'est effrayant.
Donc, effectivement, on a à peu près tout fait sur Elvis Presley. Et je peux comprendre pourquoi il y a un engouement pour la vie d'Elvis, parce que ça demeure encore l'incarnation même du rêve américain. Hein. Ça, c'est la famille Presley. Bon, lui, Elvis, est né à Tupelo, dans le Mississippi. Une famille excessivement pauvre. Hein. Si vous visitez Tupelo, Mississippi, on a gardé la maison où est né Elvis. C'est une maison avec une seule pièce. C'est vraiment... Je ne veux pas faire de... être péjoratif, mais c'est vrai. On est presque la backhouse, là. C'est vraiment une maison. C'était un
c'était la
shack,
misère.
C'est l'expression, c'est un shack, là. Et ces gens-là vont déménager ensuite à Memphis durant les... Il y a comme des éléments aussi qui vont jouer dans la vie d'Elvis. Hein, à 8 ou 9 ans, il voudrait il demande à ses parents un vélo pour la fête, pour son anniversaire. Sa mère va lui offrir une guitare à la place parce qu'un vélo, c'est trop cher. Tu vois, quels auraient été les impacts dans l'histoire si on lui avait donné un vélo, tu comprends? Et là, à Memphis, ils habitent ce qu'on appelle aujourd'hui les édifices à prix modique, là, tu vois, les HLM. Ils habitent là, ses parents ont énormément de difficultés à rejoindre les deux bouts. C'est toujours la misère noire. Et il y a l'histoire, une histoire qui est presque magique. Hein. Il va enregistrer un disque pour sa mère, pour son anniversaire, et il le fait à la Sun Record. Et au moment où il le fait, le directeur de la Sun Record, Sam Phillips, disait souvent à ses employés, « Si je pouvais trouver un blanc qui chante avec l'âme d'un noir, je ferais fortune. » Et ce jour-là,
il a entendu Elvis.
Sam Phillips n'est pas là. C'est Marion, sa secrétaire, qui est là. Et quand elle entend Elvis, elle a le temps de trouver une vieille bobine usagée pour enregistrer quelques secondes de la voix d'Elvis sur cette bande magnétique qu'elle fera entendre éventuellement Sam Phillips. Et ainsi, Elvis, de la pauvreté, de la misère noire, va devenir le plus grand artiste de tous les temps.
Oui, puis on parle encore de lui avec le même engouement aujourd'hui.
Quel rêve américain. Et je disais, en coulisses, il y a deux personnes... Elvis a non seulement transformé le monde de la musique, mais il a eu un impact social important. À cette époque, deux individus vont marquer le tissu social, James Dean et Elvis Presley, parce que les deux incarnent une espèce de scissure entre... La génération de nos parents et la nouvelle génération. Ils arrivent là, ils disent, OK, on est une nouvelle génération, mais on peut prendre nos propres décisions. On peut être autonome de nous-mêmes. Et l'incarnation de cette philosophie se fait à travers Elvis et James Dean.
Et puis, c'est pas inintéressant aussi parce qu'il y a un mystère autour de la mort d'Elvis aussi, dont on te parle souvent, j'imagine.
Oui, est-ce qu'Elvis aurait... organiser sa propre mort, ce qui me semble pas vraisemblable. Mais Elvis est un personnage également très complexe. Hein? Les historiens, les sociologues, les psychologues se sont penchés sur la vie d'Elvis. C'est un individu qui était probablement pas préparé à la gloire qui lui est tombée sur lui soudainement, ce qui a entraîné, bien sûr, des comportements parfois erratiques.
Et dépressifs.
Elvis avait un lien, on parle de fantômes, mais Elvis avait un lien très particulier avec son frère jumeau. Hein? Elvis est né le 8 janvier 1935 et... Il a été précédé par son frère Jesse Garin, qui est mort à la naissance. Et Elvis, toute sa vie, a comme cultivé une espèce de lien mythique ou mystique
avec ce frère, avec ce qu'il n'a jamais connu.
C'était, et il se posait la question, pourquoi moi, pourquoi pas Jesse Garin? C'était quelque chose de très particulier.
Bon, écoute, on pourrait parler d'Elvis encore longtemps parce que c'est toute une histoire. Puis...
Oui, c'est un personnage que je trouve fascinant dans la culture américaine, et non seulement culture américaine, mais dans la culture occidentale.
Bon, et puis ben ça nous laisse un peu de temps quand même pour parler de Doris Byter.
Doris Byter.
Ça, c'est l'une des pires histoires d'horreur, en tout cas du moins dans le cinéma. Là.
Ouais, c'est une histoire de fantôme ou superlatif et je dois te parler au départ du cinéma parce que tu vas comprendre le lien qu'il y a qui est très important. Donc, les gens connaissent l'histoire de Doris Byter qui a été incarnée au cinéma sous le nom de Carla Moran par Barbara Hershey dans un film qui s'appelle The Entity, l'emprise. Le film est sorti en 1983 et c'est un film de Sidney Furry qui a été réalisé. Et ce film-là est basé sur un roman, le roman de Frank de Felitta, qui s'appelait The Entity. Et on sait que le roman était basé sur une histoire soi-disant vraie. Un peu dans la même foulée que L'Exorciste. Dans le film L'Exorciste est basé sur le roman de William Peter Blatty. Et c'est Peter Blatty qui a dit « Je me suis inspiré d'une véritable histoire, d'un fait divers, d'un exorciste. » Et pourquoi je te mentionne ça? Parce que les gens ont souvent cette vision-là du film. Dans le film, l'héroïne, hein, Carla Moran, qui de son vrai nom s'appelait Doris Byter, elle est présentée comme une femme forte, mère monoparentale de 3 enfants, très équilibrée et qui vit des expériences extraordinaires. Et les expériences, quand je dis extraordinaires, mais aussi un peu dans épouvantable, hein, ouais, ce serait peut-être plus le mot, où elle dit « Je suis agressée sexuellement par une entité invisible ». Il y a certaines scènes du film qui sont tout à fait choquantes. Hein, quand on voit ça, c'est très troublant. On est loin de la réalité.
Bon, alors la réalité, on remonte dans les années 70.
On est en août 1974, okay. Et là, on a, à cette époque, il faut savoir qu'il y a un département de recherche en parapsychologie à l'Université de Californie à Los Angeles, la UCLA, donc un laboratoire qui existait de 1968 à 1976. Donc ce laboratoire-là, bon, évidemment, on faisait de l'investigation, de la recherche, et à un moment donné, un des dirigeants du laboratoire, un type qui s'appelle Carrie Gainer, est dans une librairie, il parle avec des collègues de phénomènes de poltergeist et là, une dame s'approche de lui, elle se présente, elle est Doris Byter, elle dit « J'ai ce genre de phénomène chez moi, des coups dans les murs, les meubles qui se déplacent, etc. » Et là, on sent au moment où Carrie Gainer l'interroge, il sent qu'il y a quelque chose qu'elle lui cache et là, éventuellement, elle lui avoue, elle a été agressée physiquement par l'une de ses entités. Elle dit qu'il y a 3 entités par un fantôme. Et là, faut quand même préciser que Doris Byter est une femme qui n'a rien à voir avec Barbara Hershey dans le film. Carla Moran, c'est une femme forte, comme je te l'ai dit, hein, c'est l'héroïne du film. Dans la vraie vie, Doris Byter est une femme qui a des problèmes d'alcool, des problèmes de comportement. Elle a été agressée sexuellement lorsqu'elle était jeune. Il y a une dynamique familiale qui est tout à fait épouvantable. Elle est mère de 4 enfants, et non pas 3, comme on le voit dans le film.
Et dans le film, pardonne-moi, Christian, parce que je ne l'ai pas vu, on la dépeint comme quelqu'un de très équilibré.
Très équilibrée,
une
femme forte.
Okay, bon.
Elle a des ecchymoses. Elle va voir un médecin lui montrant les ecchymoses qui semblent confirmer ses agressions. Dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Jamais personne n'a réellement été témoin des agressions de Doris Byter. Elle n'a jamais eu d'ecchymoses qui ont été confirmées par le corps médical. C'est une femme à problème. C'est une femme qui, dès 8 heures le matin, mettait plus de vodka dans son jus d'orange que de jus d'orange. Donc, tu vois, c'est un peu la dynamique familiale est terrible, hein. Elle a 3 garçons et une fille, tous nés de pères différents. Oui. Et elle considère ces garçons comme des violeurs en devenir. Donc, tu vois un peu la dynamique familiale qui s'installe. Oui. Donc, de août 1974 à octobre 1974, il va y avoir 8 visites des enquêteurs de la UCLA. Ce qui les intéresse, ils sont convaincus que, évidemment, le film va favoriser l'aspect sexuel des agressions sexuelles. Mais il faut savoir que les enquêteurs de la UCLA n'y ont jamais cru. Ils n'y ont jamais été témoins, ils n'ont jamais cru ça.
Mais pourquoi ils allaient sur place?
Voilà. Pour eux, l'agression sexuelle de Doris Byter était une espèce de fantasme né dans son esprit. Elle avait des sortes de fantasmes incestueux, un peu bizarres. Donc, je ne vais pas entrer dans ce détail-là, mais ça, on a mis ça de côté. Pour eux, c'était clair que ces phénomènes-là d'agression étaient inventés. Mais en revanche, les phénomènes qu'elle décrivait de poltergeist, donc les meubles qui bougeaient, tout ça, les enquêteurs ont été témoins de ça. Carrie Gainer me racontait, il me dit, la première fois que je suis rentré chez Doris Byter, en entrant dans la maison, une porte d'armoire s'est ouverte et une poêle à frire a été lancée dans ma direction.
Si je ne me serais pas
baissé, la poêle à frire, je l'aurais eu dans le front. Donc, durant les 8 visites que le groupe vont faire sur place, ils vont documenter des dizaines de manifestations de type surnaturel, de type poltergeist, pour lesquelles ils ne trouveront jamais d'explication. Et à la fin du mois d'octobre 1974, ces manifestations vont aller en diminuant et ils vont considérer que cette affaire-là est terminée. Ils vont entretenir un lien avec Doris Byter après. Éventuellement, l'année suivante, elle va dire que le fantôme le fait tomber enceinte. Donc, c'est une femme qui est très, très troublée. Donc, on a ici une histoire qui est très différente de celle du cinéma, où le cinéma, bien sûr, pour être vendeur, on insiste sur l'aspect sexuel, alors que dans la réalité, ce qui est intéressant de l'histoire de Doris Byter, c'est surtout les phénomènes dits de poltergeist qui se produisaient dans la maison.
Christian, ça veut dire qu'il y a une partie de l'affaire qu'elle a imaginée.
Oui.
Mais il y a une partie de l'affaire
qui était inexpliquée, qui a été bien documentée. Malheureusement, les équipements de l'époque, hein, parce que le laboratoire de recherche avait bien sûr des caméras, on utilisait un compteur Geiger, c'est à peu près le seul équipement, parce qu'on est loin de Ghostbusters et les chasseurs de fantômes d'aujourd'hui avec leur quincaillerie, là. On y allait avec des caméras, mais les caméras étaient relativement précaires pour filmer dans l'obscurité. C'était difficile de filmer dans l'obscurité. Mais ils ont documenté une vingtaine de manifestations tout à fait extraordinaires. Et pour lesquels, encore aujourd'hui, si on tient compte de ces récits-là, pour lesquels on n'a pas d'explication.
Ben, écoute, quelle histoire,
quand
même. Une
histoire incroyable.
Ben, pour les gens qui s'intéressent, il y a le livre et il y a le film.
Voilà,
aussi.
The Entity, le roman de Frank De Felitta et le film The Entity.
Merci, Christian. À la semaine prochaine. Au revoir.